EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Bienvenue sur cette fin de semaine. On a eu toute une semaine à parler que du conflit. J'espère que je ne me suis pas mis en conflit avec vous en parlant du conflit. Mais le but était que chacun de nous découvre en réalité qu'est-ce que la Bible dit s'il faut résoudre un conflit. On a appris comment tenir une conversation difficile. On a appris quelles sont les bases, où se trouve la direction qu'impose la boussole selon la Bible lorsqu'il s'agit de résoudre le conflit, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, que ce soit avec un leader spirituel. Aujourd'hui, en terminant, je vois qu'on parle du fait que, quelquefois, à l'église, le conflit, ce n'est pas avec des dirigeants. C'est même pas à la maison chez nous, mais c'est entre frères et sœurs. Je viens de chez moi, vous venez de chez vous, on se rencontre à l'église, on se connaît pas d'ailleurs, on vit à l'église, on est dans les départements, on est dans les ministères. Pouf! Les conflits commencent. Comment on résout ces types de conflits-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ça peut être soit le départ d'une nouvelle dimension de notre relation parce que le conflit a été résolu de la bonne manière, soit alors ça peut causer des fracas, ça va diviser et les relations vont devenir tendues et vont devenir vraiment difficiles à être vécues ensemble. Pourtant, on est dans la même église. Alors l'un va tout de suite se dire, moi je quitte cette église si je continue à le voir à l'église. Mais la Bible pourtant nous donne des réponses et des orientations. Si on sait les suivre à la lettre, il y aura une meilleure solution que d'en arriver à une division. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Je voudrais, mes frères, que nous puissions pratiquer le processus de réconciliation dans l'Église. Comment ça se fait? Et comment on transforme les conflits en des témoignages? Comment les sujets, les circonstances qui nous ont mis en désaccord peuvent devenir des témoignages qu'on va raconter demain? Je connais des bons frères, des bonnes amitiés, de bonnes relations de fraternité, mais qui n'ont pas toujours commencé au bon endroit. Ça n'a pas toujours commencé par une belle histoire. Ça a commencé par des incompréhensions, des tensions, mais après, les intentions des uns des autres ont été révélées pendant ces tensions et ont permis des meilleures relations qui puissent exister. Donc, le fait qu'il y ait un conflit, ça ne signifie pas que vous êtes charnel. Le fait qu'il y ait un conflit, ça ne signifie pas que vous êtes mauvais. Le fait qu'il y ait un conflit, ça ne signifie pas que vous manquez le Saint-Esprit. Ça signifie simplement que vous êtes un être humain et que vous avez besoin des autres pour devenir meilleur. Lorsqu'il y a conflit à l'église, lorsqu'il y a conflit entre frères et sœurs, quand je dis à l'église, ça ne veut pas dire que ça se passe dans le temple. Non, je parle du fait qu'on se connaît de là. On est cette famille-là, famille d'église locale. Lorsqu'il y a conflit entre frères et sœurs, quand je dis frères et sœurs, ce n'est pas toujours pour dire différence de genre. Ça peut être frère, frère, sœur, sœur. Je parle frère et sœur pour parler le langage de l'Église. Lorsque nous avons ces conflits-là entre nous, que peut-on faire? Qu'est-ce que la Bible nous dit pour résoudre ça efficacement, bibliquement, en apportant au bout de cela la réponse qui fortifie le corps, les corps du Christ qui fortifie l'Assemblée au lieu de la détruire? Voici la première des choses que je vous propose. C'est que il ne faut pas nourrir l'offense. Il faut agir vite et bien. Ne pas nourrir l'offense. Il faut agir vite et bien. L'une des erreurs majeures que nous commettons souvent dans nos assemblées, c'est que quand l'offense a commencé, nous l'alimentons comme une bête. Quelqu'un a fait mal, on en parle. Personne n'ose le mettre de côté et adresser la chose. Ou même, quand on va se plaindre, on va en parler. On va parler aux personnes qui n'ont aucun lien, aucune forme d'autorité, aucune forme de contact avec la personne concernée. Ah, moi, je n'ai pas aimé comment il a parlé aux autres à la chorale. Mais là, tu en parles à qui? J'en parle à la sœur qui est au protocole. Pourquoi? Non, parce que moi, je n'ai pas aimé. Ok. Est-ce que tu veux que ça change? Oui. La Bible propose que tu ailles le voir d'abord. Après cela, tu prennes quelqu'un d'autre pour aller le voir. Pas pour parler à toi, pour aller le voir. où après tu passes à des anciens, à des autorités dans l'église, à des leaders spirituels qui peuvent aider dans la situation. Ne nourrissez pas l'offense. Ne laissez pas le mal grandir. Vous ne pouvez pas l'avoir et regarder, ah non, mais lui, il a toujours été comme ça. Mais bon, c'est lui le pianiste de l'église, mais il a toujours été comme ça. Ne nourrissez pas l'offense. Vaut mieux pour vous encore faire un culte sans piano que de laisser un frère mourir pendant qu'il est en train de vivre une vie d'impureté, vivre une vie d'un manque de respect total aux autres. Je veux dire, alimenter, continuer à faire grandir son mal et vous, vous excusez ça au nom de son talent, vous êtes en train de nourrir aussi l'offense dans ces cas-là. Il est important d'agir au moment où l'offense se manifestait, d'agir vite et bien. Vous laissez, ah non, ce frère-là, il a toujours eu un langage léger comme ça. On ne sait pas pourquoi il parle comme ça aux sœurs. Oh, il parle comme ça aux sœurs, en public, vous savez, vous trouvez que son langage est vraiment impudique. Et il joue avec les mots. Si on tente de le condamner, il le donne un autre sens. Vous savez, vous avez vu ça. Et vous avez laissé cela se cultiver. Et vous n'avez pas eu le courage de pouvoir redresser cela de façon ferme, avec douceur. Vous êtes en train de nourrir l'offense, de nourrir un mal, pendant que vous pouvez agir vite et bien. Mais aussi, vous avez été touché. Quelqu'un a fait quelque chose qui vous a fait mal. Un frère a parlé, une sœur a tenu un langage, ou il a posé un geste. Que pour vous, ça vous a offensé, vous êtes dérangé par ça. N'allez pas vous promener avec. Résolvez le problème, vite et bien. Dites-lui, mon frère, là tu m'as mal fait, tu as mal fait à mon cœur. Vaut mieux encore lui donner l'occasion de tourner tout de suite et dire, oh, désolé, je ne savais pas, c'est pas ce que je voulais dire. Il peut s'arranger vite. Je vous assure que vous dormirez en paix. Croyez-moi, je vous assure. Je n'ai pas suffisamment des barbes blanches pour vous prouver que j'ai beaucoup duré sur la terre. Mais les peu de jours que j'ai fait sous le soleil, mes amis, vous aurez un meilleur sommeil si vous en parlez au même moment. Si vous résolvez le problème et vous donnez tout de suite à quelqu'un l'opportunité et l'occasion de soit se racheter, soit de corriger le problème s'il existe. Vous allez rester en paix, je vous assure. Mais si là, pendant ce moment-là, vous vous dites, ah, mais écoute, moi, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire, je préfère en parler à d'autres personnes, je vais pas lui en parler. Vous nourrissez l'offense. Proverbe chapitre 19, verset 11 dit, la prudence rend l'homme patient et sa gloire est de laisser passer les offenses. Il dit, la prudence rend l'homme patient et sa gloire est de laisser passer les offenses. Il dit, l'homme patient est connu, il est par le fait qu'il est prudent et on le respecte parce que il peut voir quelqu'un faire un mal au lieu de continuer à retenir ça dans son cœur. Là, il lui m'a fait mal. Il laisse passer. Ne nourrissez pas l'offense, même pas dans votre cœur. Ne restez pas là. Lui m'a fait, lui vraiment, c'est ce qu'il m'avait fait dans la vie, vraiment. Non, 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 non. Dans cette église, moi, je n'ai jamais oublié. Ce jour-là, le frère James avait dit, pourquoi tu nourris l'offense comme ça dans ton cœur? Laisse passer. Matthieu, chapitre 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Allez voir vous deux. Fixez le problème. S'il y a un problème, là où ça devient grave quand on a des conflits entre frères et sœurs, c'est que quand il y a eu un problème, tout le monde s'est tu, tout le monde a laissé passer. Ou alors, quand il y a eu un problème, personne n'a rien dit, mais quelqu'un d'autre a gardé cette offense-là dans son cœur, il est parti avec. Ça s'est passé quelque part un jour dans la retraite, mais toute l'église le sait maintenant. Mais c'était une retraite où vous étiez seulement à 5. Comment nous tous on sait si aucun d'entre vous n'en a parlé? Non, moi, je n'ai pas été d'accord du tout de ce qu'il avait dit ce jour-là. Est-ce qu'il sait que tu n'as pas été d'accord? Pourquoi tu en fais une telle évangélisation? Le nombre de personnes que tu as contactées avec ce conflit, ça aurait pu te permettre de gagner beaucoup d'âmes à Jésus. Les problèmes entre frères et sœurs, meilleure façon de faire avec, ne nourrissez pas l'offense. Si vous avez été touché, ne passez pas votre temps à vous réjouir de la blessure que ça a causée. Ne nourrissez pas l'offense. Ne laissez pas le mal grandir sans l'adresser clairement. Et quand je parle d'adresser, il faut aller directement vers la personne. Donc, il faut agir vite et agir bien. Deuxièmement, pardon illimité, racine d'amertume arraché. Vous voyez comment j'écris ça? Pardon illimité signifie racine d'amertume arrachée. Quand vous voulez bien vivre entre frères et sœurs dans les conditions de conflit dans l'Église, vous ne devez jamais vous placer des barèmes, des limites de pardon. En vous disant, moi, si tu fais ça, je pardonne, moi, tu fais ça, je pardonne, mais il y a des choses que je suis aussi un être humain, je ne peux pas pardonner. Si vous vous êtes donné déjà vos petites limites de pardon, le diable va tout le temps s'amuser avec. Mais quand vous êtes prêt à pardonner, la Bible dit, l'amour pardonne tout, supporte tout. Là, vous êtes en train d'arracher les racines de l'amertume et de la rancune. Vous ne pouvez pas vivre une vie amère si vous êtes prêt à pardonner. Oh, je ne suis pas en train de dire que vous serez prêt à pardonner chaque fois à l'instant. Non. Il y a des choses qui font tellement mal que ce n'est même pas le pardon que tu n'as pas réussi de faire. Tu t'en es pas encore remis, en fait. Tu sais même pas dire. C'est pas que j'en ai contre lui ou après lui, mais je n'en reviens pas seulement. Ça prend du temps d'aller, des fois, repérer où se trouve le mal, où est-ce que ça m'a fait mal. Mais lorsque le pardon est ouvert et qu'on l'accorde à chaque moment, on l'accorde à tout le monde, on l'accorde 70 fois, 7 fois, on est en train d'enlever les racines de l'amertume. Ça empêche à ce que tu deviennes méchant. Parce qu'à l'église, de fois, vous serez étonné de voir le degré de méchanceté des gens. Ouf! Vous regardez un responsable de la chorale, des protocoles, de l'intercession, de la technique, au milieu de médias, de responsables, je sais pas moi, de quelle activité, vous le voyez riposter avec tellement de méchanceté. Parce qu'il a eu quelques parcelles de pouvoir, il s'est dit, j'ai toujours dit si tu viens en retard, tu ne serviras pas. Mais il l'a pas fait par discipline. Il l'a fait parce qu'il voulait riposter quelque chose. Oui, toi aussi, ce jour-là, tu avais fait ceci. On sent la vengeance. Mon ami, si tu pardonnes quelque chose qui t'a été fait dans l'église, tu n'y restes plus en te disant, j'attends mon occasion ou moi aussi, je lui ferai la même chose. Ne fais pas ça. Je t'en supplie. Pardonne. Bats-toi avec, mais finis par pardonner. 2 jours, 3 jours, je sais pas combien de temps ça te prend, mais ne fais pas de cela un moyen, une raison de riposter par une vengeance. Déracine l'amertume au-dedans de toi. Mais pasteur, tu dis ça, mais moi je souffre dans cette église. Les gens, ils ont raconté des choses, vraiment des choses bizarres contre moi. Ils ont dit des choses vraiment, moi aussi, pasteur, vraiment, moi je me dis toujours, Dieu est un Dieu de justice. Le jour où Dieu fera justice. Tu es vraiment sûr que c'est Dieu qui a fait justice ou bien toi tu en as parlé à tout le monde? Et tu as mis ça sur ton statut fou, sur ton statut WhatsApp. Est-ce que ça, c'est la justice de Dieu? Si Dieu fait justice, il fera justice. Laisse-le faire. Mais toi, pardonne. Ne te dis pas, je mets de côté cette situation jusqu'au temps favorable où je me vengerai. Des fois, l'église, les activités dans l'église, le fonctionnement des églises ne sont devenus que des moyens, des occasions de vengeance. Tout n'est que prétexte pour que quelqu'un se venge. Dans ma petite vie de pasteur, des fois, tu regardes une situation, tu te dis, wow, là, il s'est vengé, littéralement, parce qu'il a une meilleure position, il est en meilleure condition, il s'est vengé. Il est en train de dire, moi, quand on m'avait suspendu, personne ne s'occupait de moi. Maintenant, c'est son tour. Oh là là. Alors, on veut résoudre les conflits dans l'église. Le pardon doit être illimité. Ouvrez votre cœur à pardonner à tout moment. Matthieu 18, 21 à 22 dit, Matthieu 18, 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je te le dis jusqu'à 7 fois. » Je te le dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Vous voyez ce que le Seigneur nous dit ? C'est pas pour dire, « Faites le calcul, c'est ce nombre-là que vous devez attendre. » Non, il veut dire autant de fois qu'il pécherait contre toi. Hébreux 12, 15 dit, « Veillez à ce que personne ne s'éprive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne germe et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Veillez, pas d'amertume. Troisième chose, lorsqu'on veut résoudre des conflits entre frères et sœurs dans l'Église, la restauration en douceur et des limites saines. La restauration en douceur et le placement des limites au milieu de nous qui soient des limites saines, bibliques. Je m'explique. Si on veut bien résoudre le conflit et efficacement dans l'Église, au point de transformer les gens dans les conflits, on doit croire à la restauration en douceur. On doit croire que les gens changent, s'améliorent, reviennent à ce qu'ils étaient avant, deviennent meilleurs que même hier, et ça se fait progressivement. L'Église de foi a cette tendance, derrière la discipline, les gens expriment leur vengeance, leur complexe, leur méchanceté, je viens de le dire. Quelqu'un a péché, quelqu'un a commis une erreur, quelqu'un a mal parlé, quelqu'un, on est dans un contexte de conflit. Tous les conflits ne se résolvent pas par la suspension. Toutes les mesures ne viennent pas apporter la grâce. Non, pas du tout, je vous assure. Il y a des fois des mesures que l'on impose sur des gens qui leur font plonger davantage dans le mal. Et pire encore, souvent à l'église, une fois que tu as une mesure, on te met dans un coin où tout le monde t'oublie. C'est fini. On t'emprisonne pour la vie. C'est toi, on va te stigmatiser, on te met dans un coin, tu deviens le mauvais exemple et on t'oublie. Il n'y a aucun processus pour te ramener, aucun moyen de te restaurer, aucune façon de croire que le Seigneur peut te relever. Si on veut résoudre de conflits dans l'église, entre frères et sœurs, on doit croire que le Seigneur relève les gens et que la restauration est possible et que la restauration peut se faire en douceur. On n'a pas besoin de restaurer quelqu'un en le frappant. En le causant encore davantage de tort. Lisons Galates chapitre 6, versets 1 à 2. Galates 6, 1 à 2. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Quelle est la loi de Christ? C'est porter les fardeaux les uns des autres. C'est pas juste condamner les pécheurs. C'est pas juste laisser quelqu'un tomber avec son fardeau. Porter le fardeau des uns des autres. Et dit, si quelqu'un vous le trouvez dans le péché, ne tolérez pas. Ne caressez pas. Réprimandez-le. Redressez-le, mais avec douceur. C'est-à-dire en étant conscient que toi-même, tu peux être aussi tenté. Le mal doit être connu, exposé et condamné pour qu'on n'en prenne pas exemple. Pour que plutôt on commence pas à suivre ça. Que l'exemple soit le mal est condamnable. C'est ça, tout le monde doit garder ça dans sa tête. Et pour qu'on puisse pas commencer à imiter le mal. Mais on doit le faire avec douceur. On doit le faire avec confiance de la restauration que l'Éternel apporte. Si nous sommes dans un contexte où l'erreur n'est jamais tolérée, personne ne peut avoir commencé par une erreur demain devenir meilleur, c'est ce qui rend les conflits difficiles à résoudre dans les églises. Et c'est ce qui fait monter l'hypocrisie. Parce que les gens se disent, aujourd'hui, qu'on me trouve dans une erreur, qui croira en moi demain? Qui croira en moi demain que j'ai été restauré? Et les gens deviennent hypocrites, chacun cache son erreur. Jusqu'à ce que le diable s'en réjouisse et sache que, cette personne maintenant commence à devenir grande et commence à devenir meilleure. C'est l'occasion d'exposer ses erreurs. Comme ça, on va faire tomber tout ce que le Seigneur a placé en lui. Pourquoi? Parce que le cadre de l'église locale s'est dit, une erreur, ça suffit. Une faute, c'est terminé. Mais cette sœur-là, elle n'a fait que colporter les mauvaises nouvelles par-ci, par-là. Elle, c'est une colporteuse. Je ne veux rien avoir avec elle. Est-ce que ça change ça aussi dans la vie? Est-ce que quelqu'un peut changer, Dieu peut changer quelqu'un comme ça? Ouais, je sais que Dieu est puissant à le faire, mais entre-temps, vraiment, moi, je veux. Frères et sœurs, nous devons croire à la restauration de ça. Que le Seigneur rétablit, répare, corrige. Si vous ne croyez pas que les gens sont réparés chez Dieu, pourquoi vous venez à l'église? C'est le grand endroit où il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est là qu'il nous répare, c'est là qu'il nous travaille. Si on ne se le donne pas dans la résolution de conflits, la possibilité qu'une personne peut devenir meilleure demain, c'est comme ça qu'on les condamne. C'est comme ça qu'on les accompagne pas pour qu'ils deviennent meilleurs. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 15. Ne les regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Wow. C'est ça l'orientation que Paul donne. Il dit, mais ne le regardez pas comme un ennemi. Avertissez-le comme un frère. C'est étonnant de voir qu'à l'église, on se regarde comme des ennemis. Vraiment comme des ennemis. Et en plus, on se donne aucun avertissement. Aucun redressement. Aucune parole directe pour dire, non, 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 ça c'est la dernière fois. Plus jamais, on veut plus entendre ça. C'est ce que ça signifie. Mais on préfère regarder, je veux même pas lui parler. Non, non. Je veux même pas le voir. Mes amis, on doit croire que quelqu'un qui a commis un mal peut être restauré. Mais dans ce même contexte-là, on peut être capable de poser des limites bien saines. C'est pour qu'on parle ici d'avertissement. C'est-à-dire, telle chose a eu lieu. Vous l'avez fait, vous êtes condamnable. Mais ça signifie pas que vous n'êtes pas restaurable. Ça signifie plutôt qu'à partir d'aujourd'hui, cette limite doit être vue et claire de tous. On ne dépasse pas ici. Ah, pasteur, tu sais, d'ailleurs, ce jour-là, ce frère-là, moi, je n'aime pas. On était avec lui, et puis il a commencé à me parler, comme si, voilà, il voulait une relation avec moi. Il vient à peine d'arriver à l'église, il commence, moi, je n'aime pas trop des frères qui sont comme ça. Autant vous pouvez aller le voir, ça ne signifie pas nécessairement qu'il est coureur de jupons. Moi, je connais des frères sérieux, craignant Dieu sincèrement, dont j'admirais la crainte de Dieu d'ailleurs en ce moment-là, mais qui était nul en matière de relations humaines et particulièrement en matière de pouvoir aborder une sœur pour bâtir une relation. Le frère, ils étaient juste nuls d'une manière incroyable. Nul, déchet nul. Il se retrouvait donc en 3 mois en train d'avoir des convictions, genre Dieu m'a certainement parlé pour cette sœur, Dieu m'a certainement parlé pour l'autre. Puis à peine que Dieu lui a parlé pour celle-ci, il est allé et celle-là, elle n'a pas donné réponse claire. Tout de suite, Dieu lui a parlé que c'était pas celle-là. Tu te rends compte qu'il est perdu. Il est spirituellement perdu. Au fond, il n'a pas mauvaise intention. Mais il est juste mauvais. Il ne sait pas comment s'y prendre à la chose. En moins de 6 mois, il a parlé à 4 sœurs. Et les 4 sœurs, malheureusement, elles ont appris, elles s'en sont parlé entre elles. Ce frère-là n'est pas sérieux. Il s'est mis à parler à toutes les sœurs, mais il ne l'avait pas fait simultanément. Si on ne peut pas croire qu'il peut s'arranger, s'améliorer dans ça, on ne peut pas bien résoudre des conflits à l'église. Mais on doit aussi placer des limites et lui dire, frère, ça ne se passe pas comme ça. Tu ne te mets pas à frapper à chaque heure comme si tout le monde ici n'existait que pour toi. Tu devais plutôt prendre du temps de te préparer avant un engagement. Les limites doivent être placées autant que la restauration doit être acceptée et préparée et même encouragée. Quatrièmement, souvenez-vous, en cette fin de semaine, nous sommes en train de parler de ce contexte de conflit entre frères et sœurs dans l'Église. J'ai appris ensemble avec nous que la première des choses, c'est ne pas nourrir l'offense. Il faut agir très vite. Ne laissez pas le mal grandir. Deuxièmement, j'ai dit, on doit avoir un cœur qui pardonne. Préparé à un pardon illimité. C'est ça qui déracine les racines de l'amertume et de la rancune dans nos cœurs. Je disais troisièmement tout à l'heure que la restauration en douceur, on doit y croire, que Dieu restaure les gens. Mais on doit aussi croire que les limites saines doivent être posées. Quatrièmement, unité qui attire l'onction. Quand on veut résoudre le problème dans l'Église, on doit privilégier une unité qui attire l'onction. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, on privilégie les apparences qui font fonctionner le culte plutôt qu'une unité des cœurs qui attire l'onction de Dieu. Tout le monde est bien habillé comme à la chorale. Aujourd'hui, tout le monde en bleu, tout le monde est en bleu. On donne toutes les apparences extérieures d'être ensemble, mais on n'y est pas. Et la gloire de Dieu ne descend pas sur ça. Je préfère encore qu'avant que vous puissiez monter sur ce podium pour chanter, vous vous êtes engueulé grave pour résoudre un problème, avec humilité. Et vous vous êtes demandé pardon. Et vous êtes monté sur cet endroit-là, complètement transformé. Au lieu de chacun cacher un mal, je préfère encore avant de monter, vous appeliez la personne dont vous plaignez, vous le mettez de côté, vous lui parlez sincèrement. Et vous montez là-bas avec unité des cœurs. Psaume 133, verset 1 à 3, les dit. Cantique de degrés de David. Oh, qu'il est beau, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les pans de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie et la vie éternelle. Vous voyez ça? L'unité. Quand les frères sont ensemble, quelle onction descend. Jean chapitre 17, verset 21. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus insiste sur l'unité comme un signe fort, qui poussera au monde de croire que Jésus est vraiment venu du Père, et que il est vraiment le sauveur de l'humanité. Comment le monde le sait? À travers notre unité. Privilégions l'unité. Dépasse tes intérêts personnels. Privilégie l'unité. Et en fin de compte, le cinquième point, c'est quand l'accord n'est pas possible, cherchez la médiation et la paix. Il y a des fois où l'accord n'est pas possible. On n'arrive pas à s'accorder. On tente, mais ça marche pas. Ça ne marche pas du tout. C'est pas qu'on est mauvais. C'est pas qu'on n'est pas, on n'est pas saint, on est pécheur. Non. Il y a des moments très difficile comme ça dans la Bible, où l'accord n'a pas marché. Pierre, Paul ne veut pas de Jean-Marc. Il dit non, pardon, je ne veux pas l'avoir. Il nous a abandonnés comme ça, je préfère voyager seul. Mais plus tard, vous verrez dans ses épîtres, ça ne veut pas dire qu'ils se sont jamais parlé. Il parle même de lui. Il réussit finalement à être encore ensemble avec lui. Mais il arrive des fois que l'accord devient très, très difficile. Et que des fois, on a besoin d'une tierce personne pour venir nous faciliter. Ça ne veut pas dire qu'on manque de maturité. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas spirituel, mais c'est une bonne procédure biblique. Romains 12, 18 dit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Acte 15, 39, 41 dit, « Une contestation assez vive eut lieu, de sorte qu'ils se préparèrent, ils se séparèrent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et partit après avoir été recommandé par les frères, à la grâce du Seigneur, il traversa la Syrie et la Sicile en fortifiant les églises. Deux missionnaires sont, la Bible dit, une contestation assez vive eut lieu. C'est peut-être beau à entendre, mais pas bien à vivre. Contestation vive, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une grosse contestation. Dit non, moi je pars pas avec Marc, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Toi tu pars avec Marc, moi je pars avec Silas, je ne veux pas de ce gars. Mais après, ça continue. Mais ils n'étaient pas seuls, il y avait les autres frères de Syrie et de Sicile. Mes amis, quelquefois, vous ne trouverez pas des solutions seules à l'église, entre frères et sœurs. Demandez de la médiation, ce n'est pas de l'immaturité. Demandez de la médiation, c'est la maturité. Entendez-vous parler, vous dites, je pense qu'on a peut-être besoin d'une tierce personne, quelqu'un de mûr qui peut participer à ça. On a passé une longue semaine parlant de conflits. Avant de finir, j'aimerais prier pour nos cœurs, parce que ce n'est pas facile. Laissez-moi prier. Seigneur, on sait beaucoup de choses sur le conflit. D'ailleurs, on sait exactement ce qu'on doit faire. Mais après, le cœur devient juste lourd. Il n'est pas prêt à partir. Il n'est pas prêt à le faire. Il n'est pas habitué. Il ne se sent pas prêt à le faire. Mais mon Dieu, je t'en prie, aide nos cœurs à t'obéir. Mon âme obéit à la parole de Dieu. Ne te laisse pas te promener dans l'orgueil de ton être. Mon âme obéit aux Saintes Écritures. Je le prie pour moi, je le prie pour tous mes frères et sœurs qui m'ont écouté durant toute cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup pour cette semaine. Je vais vous revoir à partir de la semaine prochaine, mais je tiens à vous rappeler que cette œuvre de EMCI TV est une œuvre qui a besoin de vous. Besoin de vous en tant que partenaire sous toutes les formes. Chaque fois, on ne cesse pas de vous rappeler cela. Que nous sommes ensemble dans cette mission d'amener la parole du Seigneur dans chaque maison de la francophonie. Vous voulez devenir partenaire de EMCI TV? Très simple. emcitv.com/don. Vous trouverez un formulaire. Inscrivez-vous et devenez partenaire. Donnez ce que Dieu vous a mis à cœur, au rythme qu'il vous a permis d'avoir, mais participez pour permettre à cette œuvre d'aller plus loin. En même temps, si vous me suivez sur YouTube, pourquoi pas? Allez juste cliquer là-bas. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube de EMCI TV. et cliquez la cloche. Comme ça, vous avez tout le temps des rappels qui vous rappellent et qui vous disent que l'émission a déjà commencé. Parce que maintenant, ça vient de finir. Dieu vous bénisse et bonne semaine.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.